Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Une grève surprise à la SNCF et des perturbations très importantes en ce début de vacances. Seul un quart des TER circulait ce matin selon le gouvernement. Lignes B et D du RER perturbées en région parisienne. À l'origine, un accident mercredi dans les Ardennes, camion contre train à un passage à niveau. Le conducteur, seul agent à bord. Les agents SNCF exercent leur droit de retrait. La réforme des retraites, le gouvernement temporise un peu plus. Énormément de choses ne sont pas décidées, dit Édouard Philippe. Et le calendrier est de plus en plus flou. Le Brexit, si vous n'avez rien compris à l'accord hier entre Européens et Britanniques, ne quittez pas, on vous explique tout. Sera-t-il adopté par le Parlement de Londres cet accord? Ça se joue à 3 ou 4 voix selon notre correspondant Antoine Gignot. L'Europe déstabilisée, c'est aussi la grève générale et la nouvelle grosse manifestation des indépendantistes à Barcelone aujourd'hui. Barcelone qui vient de vivre sa 4e nuit d'émeute. Dans l'actualité encore, gros bug à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. En grande banlieue, on va manquer de médecins aux urgences pédiatrique cet hiver. Crise sanitaire à venir, selon certains. Un épisode de l'histoire spatiale. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Ça se joue dans les minutes à venir.
Dans 20 minutes, Christina Koch et Jessica Meyer vont ouvrir la porte de la Station Spatiale Internationale et réaliser la première sortie dans l'espace 100% féminine. Il aura fallu attendre 54 ans pour voir ça.
À tout à l'heure pour les détails. Nous vous raconterons aussi cette scène digne d'un film de Scorsese au Mexique entre trafiquants de drogue et police. On a laissé filer le fils d'El Chapo. Et puis beaucoup plus apaisé, Alain Souchon, nouvel album, voilà comment est né le titre phare, I'm 50s.
Je me suis mis au piano, puis j'ai fait ta dou di dou nam di. Ferme les yeux, voir comme ça évoque. On ferme les yeux et puis on rêve.
Ben voilà, c'est facile la musique. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré à 13h30, quel est le programme?
Je reçois l'historienne de l'environnement Valérie Chansigaud à l'occasion de la première édition du festival Nature, le regard féminin qui commence à Perpignan. Y a-t-il une spécificité du regard féminin sur la nature et le monde sauvage? On en parle avec vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000, France Inter, vous avez le programme jusqu'à 14h30, c'est parti.
France Inter.
Et c'est la surprise du vendredi, fin de semaine, début des vacances de la Toussaint et grève inopinée à la SNCF. À l'origine, un accident en Champagne-Ardenne qui pose les questions de sécurité et des passagers et des conducteurs. On vous raconte dans un instant. D'abord, l'état de la circulation. Seul un quart des TER circulaient ce matin, selon le secrétaire d'État aux transports. Des perturbations en Bretagne, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Gard, dans l'Hérault. En région parisienne, les lignes de RER B et D sont fortes perturbé. Et dans certaines villes, même la circulation des TGV est concernée. C'est le cas à Montpellier, mais aussi à Marseille-Saint-Charles. Très peu de TER, de trains grande ligne et de TGV hors Paris.
La petite surprise du vendredi matin, la petite grève des trains. C'est comme lorsqu'il y a eu la grève des bus il y a 10 jours, RTM, quand il y a eu un incident. Ils ont le droit, c'est normal. Enfin, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. On fait avec.
Il est supprimé, donc j'ai demandé la raison. On m'a dit qu'il y a eu un accident et les contrôleurs ne peuvent pas assurer la sécurité des passagers. S'ils ne peuvent pas assurer la sécurité, je peux comprendre.
On est arrivé à la gare de Saint-Henri, plus aucun TER. Du coup, on a pris un taxi. Ça nous a coûté 120 euros pour arriver à Marseille. Arrivé à Marseille, aucun TGV qui part. Donc on est ici, en attente de partir sur Rennes. Galère totale. Bon, ils peuvent faire grève, moi je veux bien, je comprends, mais bon, qu'ils mettent quand même quelques trains.
Grosse colère, surtout que dans la région, c'est fréquent, c'est presque tous les jours où il y a un problème avec la SNCF. Il faudrait que les politiciens prennent le train de temps en temps. Ils se rendront compte de la galère où sont les Français. Que M. Macron s'occupe de ça un peu.
Un propos recueilli par Olivier Martoc à Marseille. La CGT fait en effet jouer son droit de retrait pour des raisons de sécurité. À l'origine de cela, un accident mercredi à Saint-Pierre-sur-Vence, près de Charleville, dans les Ardennes. Un camion convoi exceptionnel s'était détourné de sa route. Il est resté bloqué à un passage à niveau. Collision avec un TER, 11 blessés. Et le conducteur SNCF a dû gérer tout seul. Il était le seul agent SNCF à bord. Aurélie Jacquan.
Le convoi exceptionnel était censé passer par Yvernaumont, sauf que mercredi, en fin de matinée, un accident mortel entre deux voitures a eu lieu sur la route qu'il devait emprunter. Le camion a donc été dérouté. Seulement, on ne sait pas qui a décidé de ce nouvel itinéraire. On ne sait pas non plus si le chauffeur du poids lourd a bien compris les instructions. Il est allemand et ne parle pas français. Le procureur de Charleville-Mézières précise donc que l'enquête risque d'être longue, de nombreuses auditions sont prévues. Il faudra aussi comprendre pourquoi le camion était coincé sur les voies et surtout depuis combien de temps la SNCF aurait-elle pu interrompre le trafic et éviter le choc. En tout cas, le chauffeur du camion n'était plus au volant au moment de l'impact. Il doit encore être entendu.
Et donc, le conducteur seul à bord, pas de contrôleur non plus. La sécurité des passagers évidemment en question, d'où le droit de retrait. Cela dit, le secrétaire d'État au transport, vous l'avez peut-être entendu à midi sur France Inter, dénonce le mode d'action choisi. Le droit de retrait, estime Jean-Baptiste Djebari, se justifie quand il y a un événement inopiné. Or, le fait que les conducteurs de la SNCF conduisent seuls, cela est pratiqué depuis longtemps, presque partout en Europe, autrement dit, ce mouvement est abusif. Réponse du secrétaire national de la CGT Cheminot, Laurent Brun.
D'abord, on déclenche pas un conflit comme ça en claquant des doigts. Si ça explose de cette manière-là, c'est parce que vraiment, il y a un mécontentement qui est généralisé. Ensuite, le droit de retrait, il est parfaitement justifié puisqu'il y a des causes de l'accident qu'on retrouve dans la plupart des régions. La suppression du contrôleur à bord d'un certain nombre de trains, et en l'occurrence, dans celui qui a été victime d'accident, les usagers se sont trouvés livrés à eux-mêmes. Il y a eu 12 blessés à cause de ça parce qu'ils ont tenté de descendre de la rame, etc. Et on ne veut pas avoir de mort d'usagers sur la conscience. Il faut arrêter ces restructurations qui remettent en cause la sécurité. Et si M. Djebari veut faire le tour des régions SNCF, il aura, à mon avis, beaucoup d'exemples de la part des cheminots d'incidents ou d'accidents qu'ils ont déjà vécu. Donc là, en fait, c'est l'accident de trop.
Et une réunion d'urgence se tenait ce matin entre la direction de la SNCF et la CGT. Le syndicat a obtenu que des négociations territoire par territoire se tiennent pour voir où remettre des contrôleurs dans les trains quand il n'y en a plus et éventuellement des agents de sécurité. Plus les semaines passent, plus le gouvernement marche sur des œufs à propos de la réforme des retraites. Les derniers événements en date, c'est l'appel à une grève interprofessionnelle le 5 décembre et le débat auquel participait hier Édouard Philippe à Lons-le-Saunier dans le Jura. Beaucoup de questions sont ouvertes, dit le Premier ministre. Énormément de choses ne sont pas décidées. Il n'y a pas péril en la demeure.
Le système actuel a été et est encore à bien des égards un bon système. Et il est à peu près équilibré financièrement. Mais vu la masse d'argent qui circule dans les retraites, le déficit est relativement faible. Si on fait une réforme des retraites, c'est pas parce que l'équilibre financier du système serait menacé à court terme. Et si on fait une refondation des retraites, c'est pas parce qu'on dit « oh là là, ça a été fait n'importe comment ». On essaie de le faire parce que les choix qui ont été faits en 1945 et qui ont continué posent un certain nombre de questions.
Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique, dites-moi, c'est ce qu'on appelle temporiser ?
Ben oui, tout avait commencé, vous vous souvenez, par un déminage en règle. Déjà, au sortir du G7 fin août, Emmanuel Macron écartant l'idée d'un âge pivot, de quoi remettre en selle la CFDT, car dans cet acte 2 post-gilet jaune, on ne veut plus, on ne peut plus réformer comme avant. La SNCF, c'était une réforme catégorielle, les retraites concernent tout le monde, d'où le retour au grand débat. Mais pour dire quoi ? Que rien n'est écrit, que tout se discute, et quand on croit qu'un axe est retenu, le démarrage de la réforme en 2025 pour la génération née en 63, eh bien non, ça se discute aussi. Calinothérapie ? Non, répond Matignon, c'est juste qu'il n'y a aucune solution parfaite, il faut de la convergence et pas un alignement brutal. La réalité, c'est que le coup de force de la RATP mi-septembre a marqué les esprits, que la perspective d'un jeudi noir le 5 décembre, lors duquel pourraient converger d'autres conflits sociaux, eh bien cette perspective inquiète au plus haut niveau, même un visiteur du soir comme Alain Minc met publiquement en garde le chef de l'État, d'où cette impression de flou, savamment orchestrée, dans l'espoir de quoi ? De démobiliser. Du temps long, 10 à 15 ans, nous dit-on, pour les enseignants, les aides-soignantes. Manière aussi de se sortir du cycle politique. Les retraites, ne doivent pas devenir le boulet d'un président qui prépare 2022.
Merci Yael Gauze. Entre autres réformes en cours, un pas de plus vers la privatisation de la Française des Jeux, l'autorité des marchés financiers a donné ce matin son feu vert.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Il n'y a pas que le Brexit qui jette un voile d'instabilité sur l'Europe. En Catalogne, en Espagne, Barcelone vient de vivre sa quatrième nuit d'émeute. Et ce vendredi est jour de grève générale et d'une manifestation annoncée comme très importante dans les rues de la ville. Tout cela pour protester contre les peines de prison infligées en début de semaine aux leaders indépendantistes qui avaient organisé le référendum il y a 2 ans. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Thibault, vous êtes en direct de Barcelone avec Yves Lehors. C'est à 17h en principe que les cortèges de manifestants venus de toute la Catalogne devraient converger vers Barcelone. Quel climat là à la mi-journée ?
Oui, alors vous l'avez dit, hein, c'est d'abord ici un jour de grève générale à l'appel des deux principaux syndicats indépendantistes. Il y a donc peu de trains, pratiquement pas de bus et de nombreux Barcelonais comme Pedro contraints d'aller travailler à vélo.
Je travaille parce que je ne suis pas d'accord avec cette grève. C'est une idéologie qui veut imposer ses idées au service d'intérêts personnels. Ils ne consultent pas le peuple, ils n'en ont rien à faire des gens, de ce que nous pensons. Ça aboutit à une crise et les dirigeants ne savent pas comment en sortir. La classe classe politique incite et encourage tout ça. Ça va mal finir, ils sont fous.
Et parmi les fous, selon Pedro, il y a l'actuel dirigeant de la région, l'indépendantiste Kim Tora. Il a proposé hier un nouveau référendum d'autodétermination, une idée qui a eu le mérite de ne mettre personne d'accord. Seka Sabeya est une des responsables de l'ANC, une des deux associations indépendantistes organisatrices de la manifestation.
On a fait le référendum et on l'a gagné. Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Pourquoi est-ce qu'on recommencerait quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on a gagné? Il est évident que ce n'est pas parce qu'on subit de la répression qu'on doit perdre de vue la route à suivre et qui nous mènera à l'indépendance.
Une indépendance gagnée donc, selon la majorité des manifestants, lors du référendum de septembre 2017. Selon le dernier sondage commandé en juillet dernier par le gouvernement régional, moins de 45% des 7,5 millions de Catalans se déclarent aujourd'hui favorables à l'indépendance.
Merci Thibault Lefebvre. Et qu'on dit comme conséquence de ce climat, le Classico, le match de foot Barça-Real qui devait se tenir vendredi prochain est reporté. L'Espagne est donc secouée par cette crise alors que l'Union européenne doit déjà affronter le Brexit, sommet des chefs d'État et de gouvernement depuis hier qui ont donc validé, les chefs d'État, l'accord trouvé avec les Britanniques à propos du Brexit qui doit en principe intervenir à la fin du mois. Cet accord touffu, technique, on a encore besoin de beaucoup d'explications à son sujet. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Angélique, correspondante permanente de France Inter à Bruxelles. On va prendre le temps avec vous de comprendre ce qui a été acté hier et dire d'abord que au moins jusqu'en 2020, on ne change pas grand-chose finalement.
Oui. Oui, car c'est la date de la fin de la période de transition et cet accord, s'il est voté à Londres, eh bien, il permet une sortie ordonnée de l'Union européenne. On ne divorcera plus brutalement, pas de panique dans les ports ni les aéroports, pas de crise de nerfs dans les entreprises. Les pêcheurs français peuvent encore aller dans les eaux britanniques. Les règles du marché unique continuent de s'appliquer pour tout le monde, les citoyens. Tout cela, à minima, pendant 14 mois, car cela peut aussi être prolongé d'un ou deux ans. Le Royaume-Uni, en revanche, ne participe plus aux décisions prises à Bruxelles. Il n'a plus de commissaire européen, ni eurodéputés qui feront leur valise. Et très important, il paye sa quote-part du budget européen. Cette période de tampon doit aussi servir à négocier la future relation commerciale entre les deux parties, avec comme objectif d'être aussi proche que possible des standards actuels.
Alors, c'est à l'issue de cette période de transition que le protocole négocié hier entre en vigueur. Le point clé, c'est l'Irlande du Nord. Rappelons d'abord deux fondamentaux, Angélique.
Oui, deux fondamentaux, pas de frontières dures qui remettraient en cause le traité de paix, pas de contrôle douanier sur l'île d'Irlande, dont une partie ne sera plus dans l'UE, les biens circuleront librement et on a déplacé les nécessaires contrôles douaniers à l'extérieur de la zone. En fait, les Britanniques ont accepté d'effectuer ces contrôles, c'était pas gagné, et puis Bruxelles a décidé de leur faire confiance, avec de gros garde-fous tout de même. Des inspecteurs européens seront déployés et les contentieux relèveront de la Cour de justice européenne, ce n'est pas rien.
Va pour la confiance, mais comment taxe-t-on les produits qui arrivent dans ces conditions, par exemple des États-Unis?
Eh bien, les douaniers britanniques devront identifier la destination finale de celui-ci. Si c'est le marché nord-irlandais, on applique les taxes britanniques. Si c'est à destination des Européens, on applique les taxes européennes. Et ça va nécessiter un système de traçabilité extrêmement élaboré, reconnaissait encore ce matin une source diplomatique haut placée, tandis que certains ici évoquent une usine à gaz.
Alors voilà pour l'économie, mais il y a aussi des questions de santé et sanitaire. Comment éviter, par exemple, qu'un poulet au chlore arrive dans nos assiettes?
Eh bien, la République nord-irlandaise va devoir appliquer une partie des règles européennes. Ce poulet, si toutefois les Britanniques avaient envie d'en importer, eh bien, il pourrait se retrouver, si on a bien compris, dans un restaurant londonien, mais pas à Belfast, parce que les Européens, ils ne veulent prendre aucun risque de le voir entrer dans le marché unique. Ils ont donc négocié un alignement réglementaire entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est important, c'est qu'il y a déjà des normes sanitaires et phytosanitaires différenciées entre la Grande-Bretagne et la province irlandaise. Ce sera juste renforcé, explique un diplomate français.
Et on est d'accord qu'à terme, l'objectif commun des Britanniques et des Européens, c'est de trouver un accord de libre-échange sur des règles au fond très proches entre les deux zones.
Absolument, c'est le cœur de la déclaration politique qui est une annexe à l'accord de retrait. Londres veut un accord de libre-échange sans taxe ni quota. Eh bien, il y aura des contreparties. Les Européens disent qu'ils seront fermes pour éviter tout écart trop grand entre les normes environnementales mais aussi sociales et fiscales entre les deux futurs espaces économiques. Les 27 redoutent à raison du dumping à leur porte. Alors, sauront-ils s'en protéger? Eh bien, ce sera tout l'enjeu des futures négociations.
Angélique Boin, vous savez quoi? J'ai tout compris. Sauf que, ça peut être mis à la poubelle dès demain, si c'est pas adopté à Londres. La session du Parlement demain à Londres est réunie exceptionnellement un samedi. D'après notre correspondant Antoine Gignot, vote ou pas vote, adoption ou pas adoption, ça se jouera à 3-4 voix. Prêt. Et puis il y a la Syrie. Les chefs d'État européens ont appelé hier la Turquie à cesser son intervention contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Le cessez-le-feu, entre guillemets, conclu hier en Turquie sous l'égide des États-Unis. Que devient-il ce cessez-le-feu? Des combats ce matin continuaient dans une des villes clés, Ras Al Ayn. 5 civils tués dans un raid turc, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Les conditions de cette trêve négociée par les Américains en Turquie, trêve de 5 jours, les conditions sont floues. Et franchement, à l'avantage des Turcs.
Oui, on voit que tout est encore très flou et fragile avec ces combats qui continuent. Il faut comprendre quand même que sur place, la situation est très complexe. On a affaire à des milices, des groupes armés différents et tout n'est pas contrôlable en un claquement de doigts. Cette trêve, ce sont donc 5 jours de sursis laissés par les Turcs pour que les forces kurdes se retirent d'une bande de 32 km de large, une bande tampon le long de la frontière où la Turquie ne veut pas voir s'installer les combattants kurdes YPG. Les YPG qui sont donc les pendants côté syrien, des Kurdes du PKK qui, eux, sont en Turquie, ennemis jurés du régime qui les considère comme des terroristes. Alors, la Turquie, vous l'avez dit, obtient ce qu'elle voulait, la levée des sanctions américaines et le retrait des Kurdes de cette zone à majorité arabe. Des Kurdes qui, finalement, n'ont pas eu le choix et c'est bien ce que Donald Trump a cyniquement cherché à leur montrer en se posant hier en sauveur, comme celui qui a finalement stoppé le massacre. Autre vainqueur, le régime syrien, lui, qui a commencé à revenir dans des zones où il n'était plus présent depuis des années, et la Russie qui s'est engouffrée militairement dans le vide laissé par les Américains.
Et ce matin, l'accusation d'Amnesty International, les soldats turcs et leur soutien syrien ont commis des crimes de guerre depuis le début de cette offensive. Alors vous le disiez, le président américain se félicite tout de même du cessez-le-feu malgré toutes ses limites. Après avoir facilité l'offensive turque au départ en annonçant le retrait de ses soldats américains du nord de la Syrie, Trump a donc envoyé son vice-président négocier la trêve. Et pour lui, cet accord est formidable. France Inter à Washington, Grégory Phillips.
Juste avant un meeting politique à Dallas, Donald Trump dit que c'est un grand jour pour les États-Unis, un grand jour pour la Turquie et un grand jour pour les Kurdes. Ce que la Turquie a obtenu, commente encore le président américain, c'est qu'ils n'auront pas à tuer des millions de personnes et personne ne cherchera à tuer des millions d'entre eux. Je veux dire, ça aurait pu être une guerre beaucoup plus large avec beaucoup plus de groupes impliqués. Il y a 2 jours, par 354 voix contre 60, la Chambre des représentants avait massivement condamné le choix stratégique de Trump de laisser le champ libre aux Turcs afin qu'ils mènent cette opération militaire. Hier soir, dans le camp républicain, le sénateur Lindsey Graham reconnaissait un progrès significatif, mais son collègue de l'Utah, Mitt Romney, était beaucoup plus circonspect. Nous sommes loin d'une victoire, dit-il. Ce cessez-le-feu n'efface pas le fait que l'Amérique a abandonné un allié. Ce que nous avons fait aux Kurdes restera comme une tache sanglante dans l'histoire de notre pays. En 10 jours, l'offensive turque a fait près de 500 morts, dont une centaine de civils, et provoqué le déplacement d'environ 300 000 personnes. Après la signature de ce cessez-le-feu temporaire, Donald Trump dit qu'il abandonne les sanctions contre Ankara et confirme que le président Erdogan est bien invité à la Maison-Blanche à la mi-novembre. Washington, Grégory Phillips, France 1.
Et par ailleurs, l'administration Trump a lancé une bataille commerciale avec une bonne partie du monde, plus 7,5 milliards de taxes contre l'Union européenne et les différents pays et produits. À l'instant, la réaction de la Commission de Bruxelles, l'Union européenne n'a pas d'autre choix que des représailles. Allez, un peu de rêve et de hauteur avant de replonger dans l'actualité assez dure de ce vendredi. Question, combien de femmes ont choisi la carrière d'astronaute ? 65 seulement pour 564 hommes. Cela fait 11%. Cela dit, un cap doit être franchi cet après-midi. Ça se passe quasiment en ce moment. Pour la première fois, une équipe 100% féminine effectue une sortie dans l'espace. Sophie Becherel, équipe constituée des deux américaines Christina Kaur et Jessica Meir.
On va commencer avec une devinette. Quel astronaute ou cosmonaute féminine connaissez-vous?
Claudie Aigneret.
Voilà, elle est française. Mais il y avait quand même Valentina Tereshkova, oui. La soviétique, qui reste dans les mémoires et pour cause, parce que dès 1963, à l'âge de 26 ans, elle vole. La parité semble bien engagée à l'époque et les Russes en feront évidemment une icône nationale. Depuis, c'est bof bof. Il y a eu 221 sorties dans l'espace et donc c'est la première fois qu'on en confie une à une paire féminine. Elle aurait dû avoir lieu en mars dernier, mais au dernier moment, un homme avait remplacé Anne McLean. La NASA s'étant rendu compte qu'elle n'avait emporté dans l'ISS l'ISS qu'un seul scaphandre à la bonne taille. L'agence, objet de colibé, tente depuis de rectifier le tir. Lors de la présentation du futur scaphandre lunaire cette semaine, l'astronaute choisi était une femme, Christine Davis. Le duo aujourd'hui, Christina Koch et Jessica Meyer, doit réaliser une opération classique de changement de batterie à l'extérieur de l'ISS. Christina Koch a déjà 3 sorties dans l'espace à son actif. Jessica Meyer réalise sa première.
Même Martin Scorsese n'aurait sans doute pas imaginé ce qui s'est passé hier après-midi à Culiacán, au Mexique. Dans l'histoire, il y a le fils du baron de la drogue El Chapo et des tirs dans tous les sens, ou encore un état de droit très faible au Mexique. Récit Olivier Poujade.
C'est à la suite d'une patrouille de routine que la situation a dégénéré. Culiacán, hier après-midi, les forces de police passent à proximité d'une villa et sont immédiatement prises pour cible. 4 hommes sont interpellés, parmi eux, Ovidio Guzmán López, fils du célèbre Chapo. La nouvelle de son arrestation se répand, la rumeur de sa mort circule également. La réaction des membres du cartel est instantanée. Des barricades sont dressées pour couper les axes routiers. Des explosions de véhicules retentissent dans toute la ville. Une démonstration de force sidérante depuis son véhicule. Un reporter mexicain circule dans les rues de Culiacán et tente de décrire la scène. Après des heures d'affrontement dans les rues de Culiacán, le ministre de l'Intérieur mexicain prend la décision de relâcher Ovidio Guzmán López pour, je cite, « préserver les vies des hommes de la garde nationale ». Une défaite pour le président mexicain López Obrador. Les embuscades contre les forces de sécurité se sont multipliées dans le pays ces derniers jours. Il y a 48 heures, 13 policiers ont trouvé la mort dans le centre du Mexique. Attaque revendiquée par le cartel local.
Voilà pour ce récit d'Olivier Poujade. En France, cela ressemble à un gros bug à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Mauvaise répartition des internes en médecine. Aux urgences pédiatriques, il en manquera et beaucoup en grande couronne, grande banlieue. Des carences dans 10 à 13 hôpitaux de Mantes-la-Jolie à Fontainebleau en passant par Melun, Dourdan. On risque la crise sanitaire, disent les médecins. Écoutez, Arnaud Chalvon, c'est le chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Marne-la-Vallée. Il est avec Véronique Julia. Il cite d'autres villes.
À Meaux, il y a 2 internes au lieu de 10. À Pontoise, je crois qu'elle a 2 internes aussi au lieu de 10. Je crois qu'à Aulnay, c'est 0 interne. C'est pas des petites urgences pédiatriques. Hein. C'est des centres qui reçoivent en général entre 25 000 à 30 000 enfants par an. Donc, s'ils sont obligés de restreindre l'ouverture, les enfants vont être déversés sur les autres services d'urgence. Et donc, alors là, on va avoir des situations d'attente aux urgences monstrueuses. Hein. Et ça va se faire assez vite, dans la mesure où l'épidémie commence. L'épidémie de bronchiolite, qui commence en général à partir du mois de novembre, avec un pic d'activité qui est en général la deuxième semaine de décembre. C'est quand même très problématique. Il faut qu'une solution soit trouvée dans les 15 jours. Et là, on a un énorme plantage.
Et il refuse de sortir de sa cellule à la prison de la santé pour passer au tribunal. Patrick Balkany, déjà condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale, doit maintenant affronter la sanction dans le second volet de son procès, notamment pour blanchiment. C'est dans les minutes à venir. Il risque 7 ans de prison et la confiscation de ses biens. Au Japon, après la tempête et quasiment un mois de compétition, les quarts de finale, enfin, ce week-end, dans la Coupe du Monde de rugby, Angleterre-Australie, Nouvelle-Zélande-Irlande, demain, et dimanche, ce sera Galles-France à 9h15. Les Bleus n'ont battu le Pays de Galles qu'une fois ces 8 dernières années. Mais le sélectionneur Jacques Brunel est raisonnablement confiant. Ce n'est pas le moment de rentrer à la maison.
On rencontre l'équipe qui est une des 3 meilleures au monde. On est encore vivant. On parle de cette équipe de France qui est moins bien, qui est moins ceci, qui est moins cela. Quand on regarde dans la durée, on a toujours été en quart de finale. On a été très très souvent en demi de finale. Donc on a fait preuve sur les Coupes du Monde de constance. Et moi je voudrais qu'on s'inscrive dans cette ligne-là.
Et le dernier quart de finale opposera toujours dimanche le Japon à l'Afrique du Sud. Allez, terminons. Quel plaisir avec notre rendez-vous du vendredi. J'ai testé pour vous. Bonjour Mathieu Culon.
Bonjour.
J'ai testé pour vous un peu particulier aujourd'hui. C'est la sortie du nouvel album d'Alain Souchon, Am 50s. Alors vous avez testé cet album en parlant d'abord du titre qui donne son nom et son âme à l'album Am 50s.
Oui, la recette, on la connaît. C'est la nostalgie, la séduction indolente, les ballades enfantines sophistiquées, poétiques. Tous ces ingrédients sont dans ce nouvel album, à commencer par le premier titre qui donne son nom à ce 8e album, Am 50s, une chanson sur l'enfance de Souchon.
Ferme les yeux, vois. Quand
quand je suis arrivé sur Terre, j'ai vu que le monde était fait comme ça. À cette époque-là, les enfants aimaient beaucoup les voitures. Ça évoquera à des gens qui ont vécu cette période. Ça, quand on dit Jean Gabin, une 203, André Verschuren et tout, ça y est, la guerre d'Algérie, ça y est, on y est, quoi. Je me suis mis au piano, puis que j'ai fait « tanoudidounam ». Ferme les yeux, voir comme ça, ça évoque. On ferme les yeux et puis on rêve.
Les premiers baisers sages qui rendent fiers.
Voilà pour Am 50s. Alors Mathieu, quand on parle de Souchon, on pense à Woolsey. Mais sur cet album, il n'y a pas beaucoup de Woolsey. Une seule chanson, Irène.
Voilà, c'est ça. Ce disque a été conçu entre Souchon, on peut dire, Alain et ses enfants, Pierre et Ours. Et puis l'ami de toujours fait quand même une apparition, Laurent Woolsey, qui a composé donc cette chanson sur ce disque qui s'appelle Irène.
Dans un train de marchandises, un homme assis qui fut...
Irène, je l'ai faite avec Laurent Woolsey. J'adore ce prénom, Irène. Il y avait une vieille chanson de Pete Seeger, je crois que... Good night, Irene, good night. Je mets bien une espèce de valse de cow-boy. Là. Alors c'est ce mot-là qui est revenu. Et puis ça vient d'un dessin de Pellart. Pellart, il fait des dessins romantiques, tristes et très beaux. On voit un type dans un wagon de marchandises qui s'en va comme ça avec un chapeau de cow-boy et une cigarette, puis il regarde le paysage. Bon, ça nous a inspiré pour faire cette chanson.
Un air lassé, les cheveux, la bouche avec les aveux, il ferme les yeux, voit la scène.
Et toujours cette façon de parler un petit peu dans ses dents, hein, qu'il a Alain Souchon. Mathieu Culleron, encore un peu de nostalgie dans cet album. Il nous parle de ses cheveux.
Oui, Alain Souchon qui parle du temps qui passe, du vieillissement, des souvenirs du passé et des cheveux qui tombent comme les années qui passent.
On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant. Faut que tout soit un peu comme avant.
C'est parce que les garçons, ils perdent leurs cheveux, presque tous. Vous avez une casquette, vous êtes malicieux. Ouais. Et c'est triste. Et tout le monde dit c'est pas grave, ça va, voilà, si.
Là, le train vient s'allonger d'une manière un peu intime, le long du bateau à quai, à Calais maritime. Là, c'est pas New Haven. On voyait les falaises, on sautait sur le gangway. À nous les petites anglaises, on se ramène les cheveux.
Bon Mathieu, puisque vous l'avez testé cet album, écoutez attentivement et intégralement, il est bon ou pas?
On va faire court, c'est un bel album de Souchon qui comptera dans sa discographie, c'est sûr.
Et il s'appelle Am 50s et dans la galaxie Souchon, un des héritiers, sort également un album aujourd'hui, Vincent Delerme. Panorama, c'est le titre de l'album de Vincent Delerme.